Question clé. Grandeur et misère de la conscience humaine. 1. De quelle connaissance la conscience est-elle le nom? Suggérée par le problème des images subliminales, l'idée selon laquelle il pourrait exister en nous des pensées dont nous ne nous apercevons pas semble heurter le sens commun. La conscience de soi, en effet, n'est-elle pas ce qui nous rend transparents à nous-mêmes, en nous permettant d'accéder à tout ce qui se passe en nous? L'être conscient, c'est celui qui, accédant au sentiment de soi, parvient à s'appréhender lui-même, en même temps qu'il s'ouvre au monde. Descartes, page 102, Avicenne, page 106. Conformément donc à son étymologie, comme « scientia » signifie « avec savoir », la conscience apparaît comme une connaissance, de soi, du monde, mais aussi parce qu'elle prend parfois la figure d'un véritable instinct moral, du bien et du mal. Rousseau, page 105. 2. Peut-on vraiment connaître le « moi » ? Mais si la connaissance paraît délivrer toutes ces connaissances, on peut, à bon droit, interroger leur valeur. La morale, en effet, n'est-elle qu'une affaire de sentiment ? Quant au sentiment de soi, celui-ci constitue-t-il une connaissance certaine ? Pourra-t-on, par exemple, viser l'objectivité si l'on est à la fois l'observateur et l'observé ? Bien plus, l'expérience que nous faisons de notre vie intérieure, avant d'être celle d'un moi stable, n'est-elle pas d'abord celle d'une juxtaposition de sensations variées, multiples et sans continuité ? À ce compte, l'unité du moi serait une illusion, et nous pourrions aller jusqu'à remettre en cause l'idée même d'identité personnelle. Hume, page 107. 3. La conscience, grandeur ou misère de l'homme. Mais alors, comprendra-t-on toujours ce qui sépare l'homme de l'animal ? Songeons au cas de Victor de l'Aveyron qui, ayant grandi indépendamment de tout contact humain, n'avait pas développé de conscience de soi authentique. On rapporte qu'il était, par exemple, incapable de se reconnaître dans un miroir. Ce dernier se trouvait plus proche de l'état d'animalité que l'état d'homme, page 100. La grandeur de l'homme ne réside-t-elle donc pas malgré tout dans la capacité qu'a ce dernier d'accéder, à la différence de l'animal, à une certaine représentation de lui-même, Feuerbach, page 104, voire à la possibilité de dire « je », Kant, page 108, Condillac, page 213, Wolff, page 248. Mais si grandeur il y a, celle-ci n'en demeure pas moins paradoxale. En effet, la conscience de soi procure à l'homme le savoir de sa condition. Or, cette condition n'est-elle pas celle d'un être fini, mortel, faible, et soumis à toutes les vicissitudes ? Nous comprenons donc que si la conscience de l'homme fait sa grandeur, cette grandeur est toute relative. L'homme est grand ce qu'il se sait petit. L'homme est grand parce qu'il a conscience de sa finitude, Pascal, page 109. Ne vaudrait-il pas mieux, parfois, être un imbécile heureux, Nietzsche, page 88. 4. L'hypothèse d'un inconscient psychique est-elle légitime ? Enfin, peut-on réellement identifier la pensée et la conscience sans difficulté ? Peut-il exister des pensées qui ne soient pas conscientes ? Un simple rappel des nuances du langage courant semble le suggérer. En distinguant, par exemple, le fait de voir du fait de regarder, ou le fait d'entendre du fait d'écouter, nous sous-entendons qu'il est possible de percevoir une chose sans y prêter attention. Merleau-Ponty, page 358. Bien plus, notre champ perceptif n'est-il pas composé d'une multitude de données dont nous ne retenons que certaines en fonction de ce qui nous occupe ? Pour reprendre la terminologie de Leibniz, percevoir, ce n'est pas nécessairement apercevoir, c'est-à-dire percevoir avec conscience. Leibniz, page 110. Notons cependant qu'il suffira d'un simple effort d'attention pour écouter le professeur que nous ne faisions qu'entendre. De ce qui est conscient à ce qui ne l'est pas, il n'y a ici qu'un pas. Mais y a-t-il toujours continuité entre la conscience et l'inconscient ? Un simple effort d'attention ne suffit pas toujours à connaître certaines de nos pensées. Les travaux de Freud ont permis de mettre en évidence l'existence d'une force qui maintient hors de la conscience certains éléments de notre vie psychique. Ces dernières sont dites « refoulées », tant leur contenu pourrait, s'ils réussissaient à franchir la barrière de la conscience, venir menacer l'intégrité psychique de l'individu. Freud, page 111. Dans cette optique, n'est-ce pas une différence de nature, et non pas simplement de degré, qui distingue ce qui est conscient de ce qui ne l'est pas ? Ne faut-il pas envisager une véritable thérapie, la cure psychanalytique, pour permettre à l'individu de mieux se connaître lui-même ? Mais alors, si la pensée ne se réduit pas à la conscience, c'est la liberté de l'homme qui est menacée. Plutôt que sujet souverain, ce dernier se voit potentiellement déterminé par des pensées dont il ne soupçonne même pas l'existence. La notion d'inconscient psychique remet-elle en cause la liberté ? Alain, page 116. Dans l'optique freudienne, ce serait oublier la visée cathartique de la cure psychanalytique. En prenant conscience de ce qu'il a refoulé, le sujet se libère de l'emprise de l'inconscient, Freud, page 112. Dès lors, ne relève-t-il pas de la responsabilité du sujet, avec l'aide du psychanalyste, de chercher à se connaître lui-même ? À retenir. La conscience désigne la connaissance que nous avons de nous-mêmes et du monde. Mais elle est également conscience morale. Elle nous permet d'évaluer nos actions en fonction du bien et du mal. Nous faisons ainsi de la conscience le propre de l'homme. Mais la conscience n'en comporte pas moins sa part d'ombre et de misère, car le savoir qu'elle délivre à l'homme est d'abord celui de sa finitude. Dès lors, celui-ci n'est-il pas condamné à fuir dans le divertissement ? L'hypothèse de l'inconscient, qui conduit à dissocier le champ de la conscience de celui de la pensée, remet en cause l'idéal d'un sujet souverain, libre et autonome. L'inconscient psychique serait donc ce qui nous détermine. Pour autant, l'inconscient n'est inaccessible qu'à celui qui n'entreprend pas d'accéder à soi, par la médiation des autres et du monde.